passer dans sa présence n'est jamais du temps perdu. Bien souvent, nous perdons du temps parce que nous ne passons pas assez de temps dans sa présence, n'est-ce pas vrai? Car lorsqu'on a été dans sa présence, tout change. Nous changeons. Les circonstances, peut-être, ne changent pas. Mais si nous, nous changeons, c'est le plus important, n'est-ce pas vrai? C'est nous qui devons changer. Parfois, les circonstances changent. Mais si elles ne changent pas, qu'allez-vous faire? Ce que Dieu veut, c'est que nous, nous changions et que nous soyons ainsi capables de voir les choses comme Dieu les voit et non pas comme nous les voyons. Quand nous voyons les choses comme Dieu les voit, tout est différent, tout est transfiguré, tout est illuminé. Nous savons que Dieu est là et qu'il dirige toutes choses. Amen. Le Seigneur veut encore nous parler cet après-midi et nous aider à être des chrétiens qui honorent toujours plus le Seigneur. Et le message que je voudrais apporter est celui-ci, les 7 dons que le Seigneur attend de chaque chrétien. 7 dons, il y en a davantage, mais 7 dons que le Seigneur attend de vous et de moi. Nous attendons beaucoup du Seigneur, n'est-ce pas vrai? Mais savez-vous que le Seigneur aussi attend de nous? Ce n'est pas toujours à sens unique. Le Seigneur a tout fait. Il a tout fait. Il a tout donné, n'est-ce pas vrai? Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a donné son Fils. Son Fils a donné sa vie. Dieu ne pouvait pas donner davantage. Et il nous faut comprendre toujours ce don indescriptible dont parle Paul. Grâce soit rendue à Dieu pour ce don indescriptible de Jésus. Et nous devons toujours mieux comprendre ce don pour qu'en retour nous puissions nous donner. Car lorsque vous faites un don, mes amis, vous attendez en retour une appréciation, n'est-ce pas vrai? Nous attendons en retour un merci. C'est la moindre des choses. Dieu nous a tout donné et en retour, il attend quelque chose de nous. Beaucoup de chrétiens attendent tout du Seigneur, mais eux, ils ne veulent rien donner. Et cela, ça ne marche pas. Le psalmiste disait, « Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi ?» Dans le psaume 116, verset 12. « Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi ?» Et c'est vrai, lorsque nous avons compris ce qu'il a fait à la croix, ce don merveilleux de sa vie, nous ne pouvons pas rester insensibles, n'est-ce pas vrai? Vous connaissez peut-être l'histoire des Moraves qui, au siècle dernier, ont apporté ce souffle missionnaire dans l'Église. Et je lisais cette histoire du comte Zinzendorf qui, un jour, était dans une galerie de peinture. Il y avait là une peinture de la croix de notre Seigneur Jésus, crucifié. Et au-dessous de ce tableau, il y avait cette pensée. « Voici ce que j'ai fait pour toi. Et toi, qu'as-tu fait pour moi ?» En lisant ces pensées, cette pensée, c'était comme une flèche qui a pénétré au plus profond de cet homme. « Voici ce que j'ai fait pour toi. Et toi, que fais-tu pour moi ?» Il a tellement été bouleversé qu'il s'est reconsacré au Maître. Et il est devenu celui qui a apporté cette vision missionnaire au monde entier. Il a influencé un grand nombre de chrétiens qu'on appelait les Moraves à ce moment-là et qui ont voyagé le monde entier à n'importe quel prix, au prix de grandes souffrances, persécutions, tribulations, pour apporter la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus. Comment cela s'est-il passé lorsqu'il est venu au pied de la croix, lorsqu'ils ont eu une vision de la croix? Mes amis, nous aussi, si nous avons vraiment compris ce que Jésus a fait pour nous, nous ne pouvons pas rester insensibles. Amen. Bien souvent, nous pensons que c'est Dieu qui est insensible, n'est-ce pas vrai? Combien de fois, parce que les choses ne vont pas comme nous le pensons, nous pensons que Dieu ne nous écoute plus, que Dieu ne nous entend pas, qu'il est insensible. Ce n'est pas vrai. C'est nous qui sommes insensibles, durs d'oreilles. Nous sommes dans nos pensées, dans notre monde, et nous voulons que Dieu soit là à notre service pour faire nos petits caprices. Et si les choses ne se passent pas comme on veut, eh bien, on commence à se poser tout un tas de questions sur Dieu et à s'éloigner petit à petit du Seigneur. Alors que si nous le connaissions vraiment, si nous savions qu'il a déjà tout donné, qu'il ne peut pas donner davantage, il a donné le meilleur de lui-même, son Fils unique. Amen. Est-ce que Dieu pouvait donner encore plus? Non. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'était le plus grand don. Il ne pouvait pas donner plus. Il ne pouvait pas donner mieux. Et en retour, que faisons-nous? Il y a un chant qui dit, quand j'ai vu ses mains percées, saignant, quand j'ai vu ses pieds percés aussi par la croix et qui allait de lieu en lieu prêcher l'évangile, Seigneur, en retour, reçois mon amour. En retour de ce qu'il a fait, reçois mon amour. Mes amis, si la croix, le sacrifice de Jésus ne nous bouleverse pas, rien ne pourra le faire. Amen. Rien. Rien. C'est pourquoi l'apôtre Paul s'écriait, « Je ne veux savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Il avait compris quelque chose. « Je ne veux savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Quand on le voit, on comprend ce don extraordinaire. Nous ne pouvons rester insensibles. Et en retour, nous lui apportons des dons volontairement, par amour pour lui. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Alors quels sont ces dons que nous apportons ne sont pas pour être sauvés, mais parce que nous sommes sauvés. Amen. Nous sommes sauvés pour de bonnes œuvres, mais pas par nos bonnes œuvres. Amen. Il faut bien comprendre la différence. Si Dieu demande qu'on se donne à lui, ce n'est pas pour être sauvé, pour mériter le pardon de nos péchés, le salut, la vie éternelle, non. Le salut coûte trop cher pour que tu puisses l'acheter. C'est pourquoi Dieu l'offre gratuitement, avez-vous pensé? Pourquoi Dieu offre gratuitement le salut? Parce que tu ne peux jamais le payer et que tu ne pourras jamais le payer. Voilà pourquoi Dieu l'offre gratuitement. C'est un salut gratuit, mais c'est un salut qui n'est pas bon marché. Certains ont confondu gratuit avec bon marché. Il est gratuit pour nous, mais il a coûté la vie du Fils de Dieu, n'est-ce pas vrai? Nous avons été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps qui appartient à lui. Non, le salut n'est pas bon marché. Il est gratuit, mais il a coûté la vie même du Fils de Dieu. Nous ne sommes pas sauvés par nos bonnes œuvres, mais pour de bonnes œuvres. Nous sommes sauvés par grâce. Éphésiens 2, 8 et 9. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Voilà pourquoi Dieu offre le salut gratuitement, afin que personne ne se glorifie. Si c'était par les œuvres, chacun d'entre nous, on se glorifierait, n'est-ce pas vrai? Voilà ce que j'ai fait. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Voilà ce que j'ai fait. Et toi, moi si j'ai fait ça, j'ai fait ci, on se glorifierait. Tout le monde se glorifierait. Et Dieu ne serait certainement pas glorifié. Est-ce que Dieu veut cela? Non, il veut justement que l'homme ne soit pas glorifié. Et le seul moyen pour que Dieu soit glorifié, c'est d'offrir gratuitement ce salut, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Amen. Et si un jour nous serons dans la sainte présence de notre Dieu, nous ne couvrons qu'une chose, nous courber devant lui et lui dire, c'est par ton sang, c'est par ton don parfait de ta vie que je suis ici. Rien de moi, mais tout vient de toi. Agneau de Dieu, je t'aime et je t'adore. Tu es digne de recevoir la louange, l'honneur et la gloire. Amen. À ce don si merveilleux de Jésus, il y a une réponse de notre part. Et j'aimerais maintenant vous donner justement ces 7 dons que le Seigneur attend de vous. Ce ne sont pas des bonnes œuvres que je l'ai dit, pour être sauvé. On est déjà sauvé, mais maintenant que nous avons compris ce qu'il a fait pour nous, comme ce comte Zinzendorf, nous ne pouvons pas rester les mêmes. Amen. Et c'est tragique quand après des années de vie chrétienne, il n'y a rien qui change. Il n'y a rien. Très peu de choses. Ça, c'est une tragédie. C'est parce que nous n'avons pas apporté au Seigneur les dons qu'il demande. Alors, quels sont ces dons? Je vais vous les donner. Il y en a 7. On pourra en donner davantage. Mais en tout cas, 7 dons important que le Seigneur attend de nous si nous voulons vraiment le glorifier dans notre vie. Le premier don est le don de notre amour. Voilà. La première chose que le Seigneur attend de toi et de moi, c'est le don de notre amour. Pour nous, nous l'aimons, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'il nous a aimé le premier. Et vous savez, Jésus lui-même a dit, voici le premier et le plus grand des commandements. Vous le connaissez. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. C'est là le premier et le plus grand des commandements. C'est là le premier don. Vous voyez ? Le Seigneur attend cela de nous. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Il n'est pas dit, oh, si tu veux le faire, fais-le, c'est pas important. Si tu veux pas m'aimer, ça fait rien. Est-ce que le Seigneur parle comme ça? Il n'y a pas un tel langage. C'est quelque chose que nous devons lui apporter, parce qu'il est notre Dieu. Parce qu'il est un Dieu d'amour. Et il veut cette relation d'amour avec nous. Amen. Et le premier des fruits de l'esprit, c'est quoi? l'amour. Lorsque l'Esprit de Dieu agit en nous, lorsque nous sommes régénérés par le Saint-Esprit, nous n'avons qu'un désir, aimer le Seigneur de tout notre cœur. Et c'est là le premier don que vous devez lui apporter. Et vous savez, à l'église d'Éphèse, dans l'Apocalypse, le premier reproche aux chrétiens d'Éphèse était qu'ils avaient perdu leur premier amour. Dans l'église d'Éphèse, si vous lisez ce qui se passe à Éphèse, peut-être c'est bien, c'est intéressant. C'est dire, mais oulala, mais... Et Acte 2, Apocalypse 2, à partir du verset 2, c'est à l'église d'Éphèse que Jésus parle. Regardez ce qu'il est dit. « Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne supportes pas les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom. » Regardez-moi ça, toutes ces qualités. « Et que tu ne t'es point lassé. » Mais, ah, il y a un mais tragique là, « mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » On pourrait traduire le mot « abandonner », le verbe « abandonner » par « laisser ». Tu as laissé ton premier amour. Ça veut dire qu'à un moment donné dans ta vie chrétienne, tu as laissé ton premier amour, à un moment précis. C'est comme si le Seigneur voulait dire, à tel moment dans ta vie, tu as laissé ton premier amour, et tu le sais. Voyez-vous, malgré tout le bien que le Seigneur pense de l'église d'Éphèse, il y a quelque chose d'essentiel qui manque. Beaucoup d'activités, de souffrances, d'obéissance, de consécration, de persévérance. On dit, mais c'est formidable. Mais il y avait tout cela, mais sans un cœur bouillant d'amour pour le Seigneur. Le travail pour le Seigneur commençait à se faire par routine, par habitude. Et c'est là le danger qui nous guette tous. On va à l'église parce qu'on doit aller à l'église. Voyez-vous, on est persévérant. On est même fidèle. C'est une qualité. Il faut le faire. Il faut continuer de le faire. Mais comment le fais-tu? Si ça ne devient qu'une habitude, qu'une routine. Ah, c'est l'heure du culte, on doit y aller. C'est l'heure de la prière, je dois prier. Je dois témoigner, je dois lire ma Bible. Mais au fond de nous-mêmes, il n'y a plus cette étincelle d'amour que nous avions au début de notre vie chrétienne. Et c'est là que le Seigneur Jésus met le doigt sur la plaie. Beaucoup d'activités, mais l'amour pour le Seigneur a diminué. Il travaillait pour le Seigneur, mais il ne travaillait pas avec le Seigneur. Amen. Et là, est-ce qu'il n'y a pas un danger pour nous, mes amis? Nous pouvons bien commencer, mais nous pouvons mal finir. Le premier don que Dieu demande de toi et de moi, c'est mon amour. Car si cette relation d'amour avec Dieu n'est plus ce qu'elle était comme avant, nous sommes dans des habitudes religieuses. Il n'y a plus cet élan, cette spontanéité, cette ferveur, cet enthousiasme que nous avions au début. Cette simplicité n'est plus là. Et c'est ce que le Seigneur reproche. Tu as de la persévérance. Tu as éprouvé les faux apôtres, mais tu as laissé quelque part ton premier amour. Mes frères et sœurs, nous sommes tous concernés par cela, n'est-ce pas? Et nous devons continuellement veiller à ce que tout ce que nous faisons pour le Seigneur doit être inspiré par un amour sincère et ardent pour lui. Amen. Car si ce n'est pas l'amour pour le Seigneur qui nous pousse à faire ce que nous faisons, mes amis, aux yeux de Dieu, cela n'a point de valeur. Que le Seigneur nous aide à toujours faire avec cet élan d'amour. Parce que je t'aime, Seigneur, je fais ceci, je fais cela. Parce que je t'aime. Non pas parce qu'on me le demande, non pas parce que je dois le faire, non pas parce que si je ne le fais pas, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Non pas le « quand dira-t-on » Oh, vous rendez compte, si je ne le fais pas, ce n'est pas possible, je serai mal vu. On regarde toujours à l'un et à l'autre. Mais l'amour pour le Seigneur n'est plus là. La motivation n'est plus bonne. On fait cela pour plaire aux hommes, mais on ne fait plus cela pour plaire au Seigneur. Que nous soyons toujours assez humbles pour nous remettre en question. Amen. Le premier don que Dieu veut de toi, c'est ton amour. Tu aimeras le Seigneur de ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Le raisonnement de l'amour se raisonne toujours en totalité, en plénitude. Les demi-mesures, Dieu ne peut pas les accepter. Une moitié pour le monde, une moitié pour le Seigneur n'accepte pas cela. Il nous a aimés totalement et il veut un amour entier pour lui. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Amen. Si dans un couple, le mari commence à aimer sa femme à 50%, vous croyez que l'épouse sera contente? Ça n'ira pas. Même à 90%. Même à 99%. L'amour est exigeant, vous êtes d'accord avec moi? Comment? Mais chérie, je t'aime à 99%, 99. Tu n'es pas content? J'ai jamais rencontré une épouse qui dit encore, oh oui, ça va, je suis content avec ça. Jamais. J'ai jamais rencontré ça encore. Ah, vous êtes exigeante, épouse. Vous avez raison, parce que c'est ça l'amour. Sinon, ce n'est plus de l'amour. C'est ça. C'est ou tout, ou rien. Vous êtes d'accord avec moi? C'est ce que le Seigneur veut nous dire. C'est ou tout ou rien. Mais ne nous faisons pas d'illusions. Ne pensons pas que tout va bien alors que ça ne va pas. Ne pensons pas que nous sommes bien alors que finalement, devant le Seigneur, nous le déshonorons. Ce premier don, est-ce qu'il est entier? Le Seigneur n'attend pas la perfection. Laissez-moi vous dire une chose. Car nul n'est parfait. Moi, je ne suis pas parfait et vous n'êtes pas parfait. Mais on peut ne pas être parfait et aimer totalement. Et l'aimer de tout son cœur. Amen. Même sans être parfait. Tu le sais si tu l'aimes de tout ton cœur. Est-ce que ce don, tu le lui as donné? Est-ce que tu l'as abandonné à un moment donné? Pour quelle raison, on ne sait pas. Ce n'est pas écrit ici. Pour quelle raison? Tu as été déçu d'un chrétien? Déçu d'un pasteur peut-être? Tu es déçu de quelqu'un? Et tu as dit, si c'est ça les chrétiens, eh bien je n'en veux pas. Et tu as abandonné le Seigneur. Alors qu'il ne t'a rien fait. Sache une chose, que tu peux être déçu des chrétiens. Mais tu ne seras jamais déçu du Seigneur. Mets ta confiance dans le Seigneur. Lui ne te décevra jamais. Tu as perdu ton amour, ton premier amour. Reviens, reviens à ton maître. Il t'aime tendrement, pleinement. Redonne-lui cet amour qui lui revient. Amen. Redonne-lui cet amour qui lui revient. Ça, c'est le premier don. Le deuxième don, c'est notre obéissance. C'est Jésus lui-même qui a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Dans Jean, chapitre 14, versets 15, 23, 24, Jésus dit maintenant, si vous m'aimez, voyez-vous, on a parlé de l'amour maintenant, on l'aime, et maintenant il nous dit, si tu m'aimes, garde mes commandements. Autrement dit, le deuxième don que Dieu attend de nous, c'est notre obéissance. L'obéissance est la seule preuve de notre amour pour le Seigneur. Beaucoup peuvent dire, j'aime le Seigneur, j'aime le Seigneur, mais tu ne sais pas que j'aime le Seigneur. Ce n'est pas à nous de juger ce qu'il y a dans le cœur des gens, n'est-ce pas vrai? On ne peut pas dire, oh non, 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 tu n'aimes pas le Seigneur. Non, non, ce n'est pas comme ça qu'on juge la chose. Comment pouvons-nous savoir, Jésus le dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. La preuve que tu aimes le Seigneur et que j'aime le Seigneur, c'est que j'obéis à sa parole. 1 Jean 5, 3, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Voyez-vous, l'amour n'est pas seulement une émotion, un sentiment que l'on a pendant une réunion d'église et que une fois que nous avons quitté l'église, tout disparaît et ça continue comme avant. L'amour, dans l'amour, il y a du sentiment, il y a des émotions, c'est vrai. Mais dans le véritable amour divin, il y a la volonté d'obéir à Dieu. Car si on aime le Seigneur, on veut lui obéir. Le seul test de l'amour véritable dans la vie d'un chrétien, c'est son obéissance à la parole de Dieu. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ça, c'est le deuxième don que nous devons apporter au Seigneur. Seigneur, me voici. À la Pentecôte, un peu plus loin, dans Actes 5, il est dit que le Saint-Esprit a été donné à ceux qui lui obéissent. Voyez-vous, si tu veux que le Saint-Esprit agisse dans ta vie, il faut obéir. Plus tu obéis, plus tu seras rempli du Saint-Esprit. C'est là quelque chose de merveilleux. Mais le Saint-Esprit n'est pas donné à quelqu'un qui ne veut pas obéir, qui dit seulement « Seigneur, Seigneur, il faut faire attention ». Jésus lui-même a vu ça de son temps. Il a dit « Mais pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur ?» Beaucoup de gens étaient autour de lui « Seigneur, Maître, Maître, c'est merveilleux comme tu parles bien. Maître, ce miracle est extraordinaire. Mais Maître, cette résurrection de Lazare, c'est extraordinaire. » Il avait beaucoup de gens qui étaient autour de lui « Maître, c'est merveilleux. » Mais il voyait que ces gens-là ne faisaient que parler. Et il n'était pas là lorsqu'il fallait obéir. Et à un moment donné, Jésus a été indigné. Il aura dit, ça suffit maintenant. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Voyez-vous, ce ne sont pas nos belles déclarations. Nous devons faire des belles déclarations au Seigneur. Mais ce n'est pas ça qui influence le Seigneur. Si derrière ces belles déclarations d'amour, il n'y a pas ce don de notre obéissance, cette détermination de lui obéir, notre amour est vain et n'est pas accepté devant le Seigneur. Amen. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Voilà le test d'un vrai chrétien. Et pas seulement les commandements qui nous arrangent, mais même les commandements, c'est-à-dire la parole de Dieu qui nous dérange. Certains chrétiens acceptent bien la parole, mais vous voyez dans leur Bible, tous les passages soulignés, ce sont les seuls passages sur la bénédiction. Où il est question que Dieu les doit bénir, intervenir, faire des choses merveilleuses, tout est souligné là. Mais tous les passages où il faut que le chrétien obéisse, il n'y a rien du tout, c'est tout en blanc. Il n'y a rien, rien, rien. On a l'impression qu'ils n'ont pas lu, là, voyez-vous, là, il n'y a rien. Tu dois obéir, porter ta croix, il n'y a rien, là, c'est tout blanc, là.
Ah, Seigneur, non, mais c'est pas ça que je voulais te demander, moi. J'ai pas ça.
Tu dois prouver que tu veux m'obéir en obéissant à quelque chose qui te dérange. Mais si tu m'aimes, tu le feras. Et si tu ne le fais pas, c'est que tu ne m'aimes pas. C'est tout simple. Oui.
Avec le Seigneur, il n'y a pas de... Le Seigneur n'est pas compliqué, vous êtes d'accord avec moi? C'est pas compliqué avec le Seigneur. Tu le fais pas, ben tu m'aimes pas. Mais le Seigneur, c'est pas possible alors. Mais tu sais que je t'aime.
Non, non, non. Ça, c'est du sentiment.
Oui, tu as beaucoup de sentiments. C'est ce que le Seigneur veut dire. Ah oui, pour des sentiments, là, ça bouillonne. Pour ça, ça bouillonne, oui. Ça, il y a des sentiments. Mais ne confonds pas sentiment et amour.
Amen.
Beaucoup de chrétiens font cette confusion. Ça boue, ça boue. Mais ça n'a rien à voir avec l'amour.
Dans l'amour, il y a toujours la détermination d'obéir.
Amen.
Si ça ne reste qu'au niveau des sentiments, toi-même, tu seras fatigué à un moment donné. Parce que tu seras toi-même lassé d'essayer de faire quelque chose qui ne t'apporte rien. C'est dans l'obéissance que Dieu agit et que Dieu bénit. Deuxième don. Si tu m'aimes, garde mes commandements. Mon obéissance, ton obéissance. Est-ce que tu es décidé à obéir? L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements.
Ah oui, mais moi, chez moi, c'est pas comme ça. Dans mon église, c'est pas comme ça.
Mais si le Seigneur le dit, si sa parole le dit, qui va à le dessus? Qui a le dernier mot?
Ah oui, mais moi, c'est pas comme ça. Mais
à qui obéis-tu? Au Seigneur ou à un homme? Ou à une église particulière? Il faut que tout soit contrôlé par la parole du Seigneur Jésus.
Amen.
C'est lui qui doit avoir le dernier mot. Parce qu'un jour, c'est devant lui que vous vous trouverez. Et lorsque vous serez devant lui, vous n'allez pas dire, mais Seigneur...
Ah, je m'excuse, mais c'est à cause de lui, c'est à cause d'elle. Elle m'avait dit ça, on m'avait dit ça, c'est pour ça que je n'ai pas fait ça.
Comment?
Et ma parole? Et moi? Ah oui, tu avais beaucoup ma parole, mon nom sur ta bouche, tes lèvres,
mais ça n'allait pas plus loin que cela. Et alors là, je pense que nous allons passer un mauvais quart d'heure. Alors le don que Dieu demande de toi, de moi, si vous m'aimez, si tu l'aimes vraiment, le Seigneur, comme tu le dis, alors tu dois le prouver en obéissant à sa parole. À toute sa parole, pas seulement ce qui t'arrange, à ce qui est écrit, à l'enseignement des apôtres, pas n'importe quoi. Attention, pas n'importe quoi. Aujourd'hui, la confusion est grande dans les églises, où on commence à ajouter de nouvelles révélations, de nouvelles expériences à l'enseignement des apôtres. À la doctrine des apôtres. Cela, il faut le rejeter catégoriquement.
Amen.
C'est à l'enseignement du Seigneur et des apôtres. C'est à cela que nous devons attacher notre foi. Et l'apôtre Paul le dit lui-même, si quelqu'un prêche un autre évangile que celui qu'il a prêché, qu'il soit anathème, qu'il soit sous la condamnation divine. Et vous avez remarqué, dans Galates, il dit, « Et même si nous-mêmes ou un ange du ciel vous apportait un autre évangile qui soit anathème, voyez-vous, même si nous-mêmes, Paul parle de lui, comme pour dire, je peux bien commencer, mais je peux mal finir. Et certains pasteurs, puisqu'on parle là de pasteurs qui influencent et qui conduisent beaucoup de chrétiens sur un chemin de séduction, et d'erreur, si nous-mêmes, donc, même un pasteur peut se tromper.
Amen.
C'est pourquoi on ne doit jamais suivre un serviteur de Dieu aveuglément, jamais. Si vous dites, oh, moi, je fais confiance à mon pasteur, et que vous ne vérifiez pas, c'est bien d'avoir confiance dans son pasteur, mais pas aveuglément. Il faut toujours vérifier ce qu'il dit, si c'est conforme à sa parole,
à la parole de Dieu. Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Mais si ce serviteur n'est pas imitateur de Christ, ne suit pas les paroles du Christ, vous ne suivez plus le Seigneur. Vous suivez un homme, mais plus le Seigneur. Ah oui, mais moi, c'est le pasteur. Ah oui, mais s'il ne suit pas les paroles du Seigneur, qui tu suis? Ah oui, mais ah oui, j'ai cru que. C'est trop tard. Il n'y a pas de j'ai cru que. Il n'y a pas que j'ai pensé que. Et tout ce qui. Toute expérience, toute révélation qui n'est pas conforme à ce que Jésus et Paul a prêché et enseigné est un autre évangile. Cela, nous devons le refuser. Amen. Nous devons le rejeter. Nous ne pouvons pas accepter n'importe quoi. Il garde mes commandements, sa parole, rien d'autre. Amen. Alors voyez-vous, l'obéissance n'est pas n'importe quoi, il y a n'importe qui. Comme pour dire, ben voilà, tu dois obéir parce que voilà, tel prophète, tel apôtre a eu telle révélation. Ou j'ai fait telle expérience, j'ai vu un ange. Il y en a beaucoup qui voient des anges. Et des mésanges. Ça s'envole. Ça ne vient pas, ça s'en va après. On ne sait pas très bien où on va. Troisième don maintenant. Le Seigneur attend de vous et de moi un troisième don. Nous-mêmes. Toi-même. Il veut que tu t'offres toi-même à lui. Amen. Romains 12, versets 1 et 2. Je vous exhorte donc. Vous connaissez ce passage, n'est-ce pas? Par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et dans le mot grec, c'est une adoration raisonnable. Une adoration raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors ici, c'est clair, je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Dieu attend ce don de vous-même, de votre personne. On peut donner beaucoup de choses au Seigneur, sans se donner soi-même. Amen. Tu peux donner de l'argent, tu peux donner à manger, tu peux donner beaucoup de choses sans te donner toi-même. Dans les Corinthiens, il le dit, ils se sont d'abord donnés eux-mêmes à Dieu. Et ensuite, ils se sont donnés à nous. Voilà la clé de la bénédiction. Ils se sont d'abord donnés eux-mêmes à Dieu. Et lorsqu'on se donne soi-même à Dieu, tout le reste se fait beaucoup plus facilement. Amen. Tout le reste se fait beaucoup plus facilement. Alors, troisième don, c'est vous-même. Est-ce que vous avez dit au Seigneur, me voici, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Soulignez bien cela, oui, c'est vous avez reçu de Dieu. Donc ça lui appartient. Donc il attend cela de vous. Votre corps ne vous appartient pas. Vous l'avez reçu de Dieu. Donc il attend en retour que ce qu'il vous a donné lui revienne. Et que vous ne vous appartenez point à vous-même. 1 Corinthiens 6, 19. Troisième don, nous-mêmes, ta personne. Tu peux donner beaucoup de choses à Dieu, mais si tu ne te donnes pas toi-même, tu n'as rien donné. As-tu fait l'abandon de ton être entièrement entre les mains du Seigneur? Ton corps, l'as-tu livré au Seigneur pour lui dire, maintenant, tout cela ne m'appartient plus. Je l'ai reçu de toi. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Si nous comprenons cela, nous ne ferons pas n'importe quoi de notre corps. Amen. N'importe quoi. Si mon corps est le temple du Saint-Esprit, mes yeux ne m'appartiennent plus. Je dois regarder comme Jésus regarde. Je dois regarder que ce que Jésus peut regarder. Si mon corps est le temple du Saint-Esprit, mes pieds ne peuvent pas aller là où Jésus ne peut pas aller. Beaucoup de chrétiens vont dans certains endroits et au moment de rentrer, ils disent au Seigneur, « Seigneur, tu restes là, tu m'attends un petit moment. Tu restes là. Tu restes. Je vais, dans une heure et demie, je serai là à peu près. D'accord ? Le Seigneur ne dit rien. Tu t'en vas et tu reviens. Il n'est plus là. Ça ne marche pas avec le Seigneur. Ce n'est pas comme ça que ça marche avec le Seigneur. C'est lui le maître et nous les serviteurs. Mais beaucoup de chrétiens se prennent pour des maîtres et Jésus est leur petit serviteur. Fais ceci, fais cela, reste ici, viens là. Va là-bas. Mais je ne comprends pas pourquoi tu n'es pas venu. Qu'est-ce que c'est que ça? Allez, viens ici, fais ceci, fais cela. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est lui le maître. Et s'il est le maître, notre prière doit être que ta volonté soit faite et non la mienne. Amen. Mes amis, le troisième don que Dieu attend de vous, c'est vous-même. Votre corps, votre personne, l'avez-vous fait? L'avez-vous repris? Pourquoi? Avez-vous souillé ce don de vous-même? Revenez, purifiez, sanctifiez ce qui appartient à Dieu, que vous avez reçu de Dieu. Si vous avez reçu de Dieu cela, un jour Dieu vous demandera des comptes de ce que vous avez fait, de ce qu'il vous a donné. Il vous demandera des comptes. Dans le monde, on dit « mon corps m'appartient », n'est-ce pas vrai? On fait ce qu'on veut. Ça, c'est le monde qui parle ainsi. Mais le chrétien ne dit pas cela. Mon corps ne m'appartient pas. Il appartient au Seigneur. Et je dois faire ce qu'il veut. Et je veux faire ce qu'il veut. Et non ce que je veux. Vous ne vous appartenez point à vous-même. As-tu compris cela? Tu ne peux pas aller où tu veux. Tu dois aller là où le Seigneur veut. Tu ne peux pas écouter tout ce que tu veux. Si Jésus ne peut pas écouter ce que tu écoutes, tu as intérêt à rejeter ces choses. C'est ça le don que Dieu attend de toi, toi-même. Pas seulement des paroles. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Nous devons veiller à cela et ne pas tomber dans une routine qui fait que rien ne change. Et on se fait même des illusions, pensant que nous sommes des chrétiens merveilleux, alors que finalement, nous sommes désobéissants et rebelles et que nous ne glorifions pas Dieu dans notre vie. Ton corps appartient au Seigneur, toi-même. Voilà pourquoi Jésus a pu dire « Voici, ô Dieu, je viens pour faire ta volonté. » Voilà pourquoi Paul a été utilisé par le Maître. « Que veux-tu, Seigneur? Que veux-tu que je fasse tout de suite sur le chemin de Damas? Que veux-tu que je fasse ?» C'était le don total de lui-même. Voilà pourquoi Paul a été utilisé. Non pas parce qu'il était meilleur que nous, mais parce qu'il s'est donné plus que nous. Amen. Ce troisième don, qu'en est-il dans ta vie? Est-ce que tu lui as offert un don? Quel don? Un don souillé ou un don entier, sanctifié, vase d'honneur, utile au maître? Donne-toi entièrement, pas seulement tes péchés, mais il veut ton corps, ta volonté, tout livré entre ses mains. Quatrième don maintenant, ce qu'il attend de nous, c'est ce don aussi, le don de notre fidélité. Parce que nous l'aimons, nous lui restons fidèles. Dans un couple, parce qu'on s'aime, on reste fidèles l'un à l'autre. Amen. C'est tout simple. Quand on s'aime, on reste fidèles. C'est ça l'amour. Amour est synonyme de fidélité. Quand il n'y a pas de fidélité, il n'y a pas de vrai amour. Même si on est, mais tu sais que je t'aime, tu sais que je t'aime. Et il y a l'infidélité par moment. Ce n'est pas ça l'amour. Ce n'est pas du tout l'amour. Si tu l'aimes, Dieu attend un don de ta part, ta fidélité. Et vous savez, dans Apocalypse 2, il est dit, Jésus nous exhorte, sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de la vie. Et l'apôtre Paul lui-même dit dans 1 Corinthiens 4, verset 2, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Voilà. Chacun d'entre nous, nous sommes des administrateurs, des dons, des talents que Dieu nous a donnés. Et ce que Dieu attend de nous, c'est la fidélité, la loyauté. Jésus a dit, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire, Jean 17, 4. Voyez-vous la fidélité de Jésus à son Père. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée. Voyez-vous, c'était le don de Jésus à son Père, le don de sa fidélité. J'ai achevé l'œuvre. Pourras-tu dire à la fin de ta vie, Seigneur, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire, me voici. Et qu'il puisse nous dire, cela va bien, bon et fidèle serviteur. La fidélité, c'est quelque chose qui nous coûtera, la fidélité à sa parole, surtout actuellement. Quand vous voulez être fidèle à sa parole et tous ces mouvements de séduction, dans le mouvement charismatique en général, où les déviations, les séductions agissent vraiment avec une incroyable force. Et lorsque vous n'êtes pas d'accord avec ça, on vous dit que vous êtes un pharisien, que vous êtes un antichrist même, que vous résistez au Saint-Esprit, que vous êtes un infidèle, que vous divisez le corps de Christ, que vous manquez d'amour. Oui, on en dit des choses. Alors que, selon la parole de Dieu, ce ne sont pas ceux qui sont fidèles à la parole de Dieu, à la saine doctrine qui divisent. Ce sont ceux qui prêchent des fausses doctrines, qui divisent. Ceux qui prêchent des fausses doctrines, ce sont ceux qui divisent. Pas ceux qui prêchent la saine doctrine. Romains 16, 17. Parce que souvent on l'entend cela. Arrêtez-vous avec vos choses, la doctrine et tout ça. Ça divise. À tel point que maintenant, dans certains milieux, la doctrine, on n'en parle pas. Pourquoi ? Parce que ça divise. Mais mes amis, ce n'est pas la saine doctrine qui divise. Ce sont les fausses doctrines. Romains 16, 17. Juste le passage en question. Paul dit, « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions. » Qui est-ce qui cause des divisions ? Vous allez voir ici. « Et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. » Qui est-ce qui cause des divisions ? Ce sont ceux qui font des compromis avec l'enseignement de la parole. Amen. Ce sont ceux-là qui divisent. Ceux qui font des compromis avec l'enseignement que vous avez reçu, donc avec la saine doctrine. Si tu veux être fidèle, On te prendra pour quelqu'un qui divise, quelqu'un qui n'a pas d'amour, quelqu'un qui est contre l'unité. On vous dira toutes sortes de choses. Mais ne vous laissez pas décourager. Sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de la vie. On a dit de Jésus qui était parfait, qu'il était possédé du démon de Belzébul. On a dit tant de choses sur notre maître qui était parfait, n'est-ce pas vrai? Alors ne soyons pas étonnés si nous, ses disciples, nous sommes aussi rejetés parce que nous aimons la vérité. Mais offre-lui ce don de fidélité. Me voici, Seigneur. J'ai cherché à être fidèle à ta parole, être loyal. Me voici. Quel beau don à présenter au Seigneur. Amen. Amen. Pourras-tu le faire? Pourras-tu se présenter ce don de la fidélité au Seigneur et à sa parole? Pourras-tu dire, me voici, Seigneur, j'ai tout fait, j'ai fait le maximum. Je n'ai pas accepté la crainte des hommes, les menaces des hommes, parce qu'on vous menace aussi. On vous menace dans ces milieux, soi-disant où le Saint-Esprit agit. Comme pour dire, si vous n'obéissez pas à ces choses-là, le jugement de Dieu tombera sur vous, comme Ananias et Saphira. Et on veut ainsi faire du chantage. Ne vous laissez pas impressionner par ces gens. Le Seigneur sera avec vous. Gardez ce don de la fidélité et dites, Seigneur, j'ai gardé ta parole. Et parce que tu as gardé sa parole, Dieu te gardera alors de la tentation qui viendra sur la terre pour éprouver tous les hommes. Le don de la fidélité. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de la vie. Un cinquième don, le cinquième don que Dieu attend de nous, c'est le don de nos talents. Le don de nos talents. Savez-vous que Dieu attend que les talents qu'il vous a donnés, vous puissiez les utiliser pour sa gloire. Amen. Et en cela, le Seigneur est... En cela, le Seigneur est extrêmement pointilleux, j'allais dire, exigeant. Dans Matthieu 25, je ne vais pas lire, il y a toute la parabole des talents, n'est-ce pas vrai? À l'un, il en donne 5, à l'autre, 2, et à l'autre... Avec qui a-t-il eu des problèmes, le Seigneur? Avec celui qui avait qu'un seul talent. Il a dit, moi j'en ai qu'un, je savais que tu étais dur et tout, alors j'ai été caché mon talent, et maintenant le voici, je te le donne. Donc il n'a pas fait fructifier le talent que Dieu lui a donné. Et tous ici, nous avons un talent. Et un jour, Dieu nous demandera des comptes. Vous demandera des comptes du talent qu'il vous a donné. Vous savez, même celui qui en a reçu 5 ou 2, on pense que ces gens-là ont reçu beaucoup. Et alors nous, on est comme petits à côté, on dit, oh, moi, j'ai rien du tout. Lui, il a 5 talents, lui, il en a 2. C'est beaucoup, moi, j'ai rien du tout. Non, non, non. Le Seigneur ne voit pas du tout les mêmes choses. Vous savez, quand l'un en a eu 5, il en a gagné 5. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il lui dit dans la parabole? Cela va bien. Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Et pourtant, c'était 5 talents. On aurait pu penser que le Seigneur dise, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en beaucoup de choses. Non. Même les 5 talents, c'était peu de choses aux yeux du Seigneur. Et celui qui en avait 2, viens maintenant, tu as été fidèle en peu de choses. Donc, voyez-vous, le Seigneur ne voit pas les choses comme nous les voyons. Nous pensons que les uns et les autres ont beaucoup, mais aux yeux de Dieu, c'est peu. C'est peu. Et il attend de votre part un talent. Vous devez le faire fructifier. Que faites-vous du talent que Dieu vous a donné? D'une manière ou d'une autre, c'est à vous de répondre. Elle est extrêmement sévère dans ce côté-là. Il y a des chrétiens qui ne font jamais rien, qui ne font absolument rien pour le Seigneur, d'une manière ou d'une autre. Leur seul ministère, c'est venir chauffer les bancs d'église. Une fois, j'avais entendu ceci, je vais terminer maintenant, un pasteur qui avait dit ça. Il y a dans une église, toujours, il y a trois sortes de chrétiens. Premièrement, il y a ceux qui ne font rien du tout. Deuxièmement, il y a ceux qui critiquent ceux qui font quelque chose. Ils pensent que c'est leur ministère. Eux ne font rien, mais ils sont toujours là pour. Le corps ne travaille pas, mais il y a un petit membre là qui travaille beaucoup. Ah non, tu devrais faire ceci, tu devrais faire ça, tu devrais faire ceci. Voilà, ils sont toujours là. Ils critiquent ceux qui font quelque chose. Ça, c'est le deuxième genre de personnes. Et la troisième catégorie, ce sont ceux qui font quelque chose malgré les critiques des autres. Voilà ce que Dieu attend de vous. Vous n'aurez aucune excuse. Vous ne pourrez pas dire, mais Seigneur, j'avais rien du tout, tu as au moins un talent. Tu auras des comptes à rendre. Tu auras des comptes à rendre. Il va te demander ce que tu as fait. Car tous, vous avez un talent. Vous dites, mais moi, je n'ai pas de talent. Tu n'as pas de talent, donc tu n'es pas converti. Mais qu'est-ce que vous dites? Je suis converti. Ça fait 20 ans que je suis converti. Si tu es converti, tu as au moins un talent. Mais je n'en ai pas. Tu n'es pas converti. Alors viens là et convertis-toi. Mais je suis converti. Si tu es converti, tu as un talent. Tu en as au moins un. Et vous savez, Dieu vous a donné quelque chose. Et je ne vais pas faire une méditation de ce passage. Mais pourquoi le Seigneur a été méchant avec ce serviteur? Parce qu'il savait ce qu'il devait faire. Je savais que tu étais dur. Il savait et il ne l'a pas fait. Voyez-vous, on pense que Dieu nous juge sur des choses qu'on ne sait pas. Ah oui, moi je ne sais pas et tout. Non, non, non. Pourquoi il a été méchant le Seigneur? Je veux dire, pourquoi il a été dur envers ce serviteur? Parce qu'il savait ce qu'il devait faire et il ne l'a pas fait. Vous savez ce que vous devez faire. Dieu vous a donné quelque chose. Il ne va pas vous juger sur ce que vous ne savez pas, mais sur ce que vous savez. C'est pourquoi donnez ce talent à Dieu. Faites-le fructifier. Et il vous dira, cela va bien, bon et fidèle serviteur. Et je te confierai beaucoup. Alléluia. Ne dis pas que tu n'as pas de talent. Tu en as un. Un jour, tu rendras des comptes. Ah oui, mais moi, non, non. Ça ne marche pas. Ça marche ici avec le pasteur, avec le chrétien, avec tel autre. Ça marche, ça. Mais ça marche ou ça ne marche pas encore. Ben. Mais là-haut, ça ne marchera pas. Ça ne passe plus là-bas. Ça ne passe plus. Je t'ai donné ceci. Qu'est-ce que tu as fait? Bref, c'est vous qui répondrez. Sixième, je termine, sixième don. Que Dieu attend de nous maintenant, c'est le don de notre reconnaissance. Dieu attend cela de nous. Vous savez, dans l'Épître aux Romains, chapitre 1, au verset 20, il est dit qu'un des premiers reproches que Dieu fit à l'homme envers la création merveilleuse de Dieu, la puissance éternelle de Dieu, la divinité et ses perfections invisibles, est que l'homme ne lui a pas glorifié et rendu grâce. Romains 1, 20. Voyez-vous, dès le début, l'homme savait que la création était une création merveilleuse de Dieu. Et il devait lui rendre grâce. Il ne l'a pas fait. C'est cette ingratitude-là qui a fait que Dieu était extrêmement sévère. Mes amis, c'est pourquoi la Bible nous exhorte à rendre grâce continuellement, à abonder en actions de grâce. Es-tu un chrétien reconnaissant ? Es-tu un chrétien reconnaissant? Il y a deux sortes de chrétiens. Ceux à qui tout est dû. Tout est dû. Alors, j'attendais depuis longtemps. Tout est dû. Et l'autre chrétien, tout est don de Dieu. C'est pas tout est dû, tout est don. Merci. Merci. La moindre chose, merci. Un cœur reconnaissant pour les talents que Dieu vous a donnés. Ne discute pas sur les talents que Dieu t'a donnés. Il sait très bien ce qu'il te faut. Ne te compare pas à l'un ou à l'autre. Dis merci. Et ce talent pourra devenir deux talents. 4 talents, 8 talents. Si ce serviteur avait mis son seul talent en action, il en aurait beaucoup après, n'est-ce pas vrai? 1 plus égal, multiplié par 1, ça fait 2, enfin... Voilà. Bon, j'ai plus que 2 minutes, on m'a dit. Et je termine maintenant. 7e don, notre adoration. Voilà ce que Dieu attend. Dieu, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Amen. Alors, mes amis, voilà ce que Dieu attend de toi. Tes dons, ta reconnaissance, mais aussi ton adoration.